من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم et bienvenue pour cette soirée du 22 Dhul-Hijjah 1428, c'est-à-dire le 31 décembre 2007 bi'idhnillah azza wa jal. Nous sommes dans le quatrième dars, le quatrième cours inshallah ta'ala du livre La personnalité de la musulmane, docteur Ali Al-Hashimi ou Al-Hashimi. Naam. Afwan. Le titre d'aujourd'hui inshallah ta'ala, tayyib muslim fi sawt, et que quelqu'un de vous inshallah ta'ala écrive à chaque fois le titre. Naam. Écrive à chaque fois le titre. Donc nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, chapitre 1, Naam, chapitre 1, 15e mot. Chapitre 1, 15e mot, ou petit 15, ou quelque chose comme ça. Elle porte le voile légal. Elle porte le voile légal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. La musulmane, s'astreint à porter le voile légal à chaque fois. Une seconde, Inch'Allah, pour le micro, il y a un problème. Une seconde. Le voile qu'on dit communément le hijab, et qu'Allah Ta'ala l'a appelé le jilbab dans le Coran, et l'habit islamique dont les caractéristiques ont été précisées dans le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme vous savez, le voile que met la femme a été cité dans le Coran, parce que Allah Ta'ala a dit ya ayyuha an-nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Il a appelé Allah Ta'ala le jilbab. Le jilbab, c'est quelque chose qui commence par la tête, on le met sur la tête et il descend jusqu'au sol. Et bien sûr, il a des caractéristiques, il a des conditions. Entre autres, il y en a 7 ou 8, je ne les rappelle pas maintenant. Quiconque veut les connaître avec précision, qu'il lise le livre de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui parle dans cette chose-là, comme le voile islamique, ou bien comme Adab Zifef et les autres livres. Les plus importantes de ces conditions, c'est qu'il doit être large. Et qu'il doit être large pour ne pas mouler la femme ni montrer ses atours. Naam. Et qu'il ne doit pas être transparent. Si il doit être large, alors mieux encore, il ne doit pas être transparent. Naam. Ni un habit de mode. Naam. Ni un habit de mode. Ni d'une couleur attirante. Ni d'une couleur qui attire de loin les regards. Naam, qui attire de loin les regards. Et bien sûr, il doit couvrir tout le corps. Donc la musulmane ne doit pas. Naam, la musulmane. On me dit je suis loin du micro. Est-ce que je suis loin du micro? Est-ce que je suis loin du micro? Ou bien si vous m'entendez normalement? Alhamdulillah. Donc la musulmane ne doit pas sortir de chez elle ou bien apparaître devant des étrangers en exhibant ses atours ou en étant maquillée, car elle sait très bien qu'un tel comportement est catégoriquement interdit par un texte
explicite du Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran, et dit aux croyantes de baisser le regard, de garder leur chasteté, les croyantes, hein, et dit aux croyantes de baisser le regard, comme l'homme baisse le regard, la croyante baisse le regard, de aussi de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, c'est-à-dire les mains et le visage, et qu'elles rabattent leur voile sur les fentes de leur bustier, et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, non, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, non, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou à l'esclave des deux sexes, ou aux domestiques impuissants, ou aux garçons impubères, qui ignorent tout des parties cachées des femmes, et qu'elles ne frappent pas de leurs pieds ce qu'elles cachent dans leur parure. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Sourate 24, verset numéro 31. Remarquez ici qu'Allah Ta'ala a dit, non, remarquez ici qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit, Muslim, tu n'as pas le Coran pour, inshallah Ta'ala, nous chercher le verset. Regardez qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit, ou aux domestiques, domestiques impuissants. Ensuite, il a dit, ou aux garçons impubères. Garçon impubère, quand le garçon n'est pas encore pubère, non, la femme peut lui montrer ses atours. Nam, le visage et les mains. Nam, encore plus. On peut montrer encore plus. Nam, c'est-à-dire jusqu'aux avant-bras, le tibia, etc. Mais, à condition de quoi? Nam, à condition que, il a dit, aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées de la femme. Qui ignorent tout des parties cachées de la femme. C'est-à-dire, que un enfant, même s'il est impubère, mais qu'il a déjà le vice de regarder comme ça et d'être intéressé par le fait de voir les tibias des femmes, etc., celui-là, non, elle doit se voiler devant lui et ne lui montrer que ce qui est permis d'être vu. C'est pour ça que les garçons, quand ils sont impubères, se divisent en deux. Il y a ceux qui ne sont pas intéressés par cette chose. Et il y a ceux qui ont déjà le vice de nos jours, par exemple, à force de voir des choses dans la télévision, on vient de vivre avec les koufars, etc. Déjà très jeunes, ils apprennent ces choses à Oudoubillah. Donc, si un garçon, même un pubère, a le vice, la femme doit se cacher de lui. Non. Je disais, et au début du verset, quand j'ai dit, et de me montrer de leurs atours que ce qui paraît. Non. Ici, quand elle a voulu dire, le visage, les mains jusqu'au coude, non, le cou, un peu plus bas que le cou, et jusqu'au demi-tibia, bi-idhna azzawajal. Donc, la musulmane consciencieuse, non, ne fait donc pas partie de ces femmes qui pullulent dans les sociétés contemporaines. Des femmes quasi nues, presque nues, égarées du droit chemin, et désobéissante au commandement d'Allah. Loin s'en faut. La musulmane doit éprouver une inquiétude intense quand elle entend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui relate dans un tableau terrifiant le sort de ces femmes non voilées et égarées qui subornent les hommes et contribuent à la corruption des mœurs et des mœurs aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, non, et je crois aussi par Bukhari, il a dit, il y a deux catégories parmi les gens de l'enfer que je n'ai jamais vu auparavant. Il y a deux catégories des gens de l'enfer que je n'ai jamais vu auparavant. Des gens qui en frappent d'autres en se servant de fouets semblables aux queues de vache. et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de nos jours. Vous voyez que de nos jours, il y a des gens qui ont des bâtons, hein, qui frappent les gens avec des bâtons semblables aux queues de vache. Subhanallah. Et il a dit, des femmes nues, bien qu'elles soient habillées, et qui, délibérément, exprès, vacillantes, elles vacillent dans leur démarche, et font vaciller des esprits. Ma'ilat mumilat. Et dans les têtes, à cause de leur coiffure ostentatoire, ressemblent aux bosses de chameau. Naam, sallallahu alayhi wa sallam, il savait que il allait avoir une mode où la femme mettrait le chignon, au-dessus de sa tête. Donc, il a dit, et des femmes dont les têtes, à cause de leur coiffure ostentatoire, vont ressembler aux bosses de chameau. Celles-là, ces femmes-là, n'accéderont jamais au paradis. Ils n'en sentiront point son odeur. Elles ne vont pas sentir l'odeur du paradis, bien qu'elle soit perceptible à telle distance. Donc, vous remarquez que la femme musulmane bien avertie, non seulement elle se voile, mais encore mieux, quand elle met le khimar sur sa tête, ou quand elle met le khimar avant de mettre le djilbab, elle ne doit pas être coiffée avec ce qu'on appelle le chignon, ni au-dessus de sa tête, ni derrière sa tête. Naam, le chignon, si elle le met, elle le met quand elle est à la maison, elle ne met pas le chignon qui est sur la tête, mais elle met le chignon qui est du côté de son cou, qui descend vers le bas, derrière sa tête, pas sur sa tête. Naam. Mais s'il est positionné derrière la tête, naam, Cheikh Ibn Uthaymeen Allah a dit, c'est permis si c'est dans la maison. Car si elle sort avec un chignon derrière la tête dans la rue, elle va attirer avec la bosse qu'elle aura derrière la tête. Al-Muhim, la musulmane avisée qui a appris l'islam de ses sources pures et a grandi conformément à ses enseignements, ne s'astreint pas à porter le voile par habitude ou selon une coutume ancestrale qu'elle a héritée des femmes d'antan. Hein? Comme certains simplistes se plaisent à présenter cette pratique, sans fondement scientifique ou argument logique. La femme, la musulmane avertie, la pieuse, quand elle met le voile, ce n'est pas par habitude, parce que sa mère et sa grand-mère le mettaient qu'elle va le mettre. Bien au contraire, elle doit le porter en ayant la foi profonde que c'est Allah Azzawajal qui l'a prescrit. Et que si elle ne le met pas, donc, elle se pousse, à être châtiée demain si elle va mourir. Et elle a peur que elle soit de celles qui ne vont rentrer au paradis. Naam. Elle doit avoir donc la conviction que le port du voile est une prescription qu'Allah Ta'ala a instituée pour honorer et protéger la femme musulmane de la tentation, de la débauche et de l'égarement. Ainsi, à l'instar des premières musulmanes, avec leur attitude, lorsque le verset du voile fut révélé, la musulmane accepte avec satisfaction, sérénité et conviction. C'est-à-dire, elle accepte le voile. Bukhari, l'imam Bukhari rahmallah, rapporte que Aïcha, la mère des croyants, qu'Allah Ta'ala l'agrée, a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'Allah accorde sa miséricorde aux premières femmes émigrées. Car quand Allah révéla le verset et qu'elles rabattent leur voile sur les fentes de leur bustier, elles déchirèrent leurs étoffes pour se voiler la tête. Bukhari rapporte également une autre version où il est dit, elles prirent leurs étoffes et les fendirent du côté de la bordure pour en faire des voiles. Naam. Pour voir Fath al-Bari, volume 8, page 489. Dans une autre version, Ibn Abi Hatim rapporte que Safiya bint Shayba a dit, alors que nous évoquions les mérites des femmes Quraishites chez Aïcha radiallahu ta'ala, elle nous dit, c'est Aïcha qui a dit, certes, les femmes Qurashites ont leur mérite. Cependant, par Allah, je n'ai jamais vu de femme aussi méritoire, ni aussi prompte, elles font vite, à croire au livre d'Allah et à la révélation que les femmes des Ansar, les Médinoises. Non. Car quand le verset suivant de la sourate intitulé le Nour fut révélé et qu'elles rabattent leur voile sur les fonds de leur bussier, leurs hommes retournèrent les rejoindre pour leur réciter ce qui les concernait de ce que Allah Ta'ala a révélé. Alors, chacun d'eux la récita devant son épouse, sa fille, sa sœur et sa parente proche. Alors, chacune d'elles prit son étoffe pour se voiler la tête, ce qui illustre leur foi et leur adhésion à ce qu'Allah Ta'ala a révélé. Puis, dès le lendemain, elles étaient derrière le messager d'Allah, alayhi salam, à tête couverte dans la prière à la mosquée. On aurait dit qu'elle avait des corbeaux sur la tête. Fath al-Bari 8, 489, 490. On dirait des corbeaux avec le voile. Vous avez remarqué que, autrefois, dès que l'époux disait à son épouse ou à sa fille, Allah Ta'ala a révélé tel verset, elle fait quoi? Elle l'applique sur le champ. Naam. Dès que les époux ont dit à leur femme, à leur fille, Allah Ta'ala a dit dans un verset et qu'elles rabattent leur voile sur les fentes de leur bussier, elles ont commencé à déchirer les étoffes et les mettre sur la tête. Maintenant, nous, plusieurs femmes, quand on lit du voile, elles disent, Inch'Allah Ta'ala, quand je vais au Hajj, je vais le mettre. Et l'autre, elle dit, Inch'Allah Ta'ala, je vais me marier, je vais le mettre. Et l'autre dit, Inch'Allah Ta'ala, quand je vais faire la hijra, je vais le mettre. Et l'autre dit, Inch'Allah Ta'ala, quand j'arrête du travail, je vais le mettre. Et l'autre dit, Inch'Allah Ta'ala, quand je termine mes études, la licence, je vais le mettre. Et comparer donc, comparer nos sœurs, nos mères, nos filles à aux sahabiyat, les compagnons, radiallahu ta'ala anouna, qui sur place ont déchiré les étoffes et les ont mises sur la tête en disant Sami'na wa ta'ana. On a entendu, on a quoi? On a appliqué. Subhanallah l'azim. Vous voyez la différence? C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on s'étonne demain quand on va voir la différence de délices que donnera Allah Ta'ala au paradis à ces femmes-là, comparées à nos femmes, comparées à ma mère, à ma soeur et à ma fille. Ce qu'il va donner aux compagnons qui ont déchiré les étoffes. Maintenant, on se dit, il y a ceux-là, il y a ceci, il y a des gens qui me voient, je suis complexé, ils me complexent, je ne sais pas quoi. Que Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse nos cœurs. Ensuite, il dit qu'Allah accorde sa bénédiction aux Ansarites, et aussi aux émigrés de la Mecque, les femmes qui ont émigré de la Mecque. Quelle foi profonde, quelle adhésion sincère à l'islam, quelle soumission prompte à la vérité, dès sa révélation. Toute croyante en Allah et en son messager devrait suivre l'exemple de ces femmes de mérite. Elle devrait s'astreindre au port du voile islamique. Naam. Et ne prêter aucune attention à la nudité et l'exhibitionnisme dans son entourage. Naam. Une seconde, inshallah ta'ala. Une seconde. On m'envoie des noms qui font des problèmes dans la salle. Une seconde, inshallah ta'ala. Quand vous avez des noms qui vous font des problèmes dans la salle, dites-le-moi, inshallah ta'ala, pour les bouser. Non, pour que le problème avec eux. Non. Regardez celui-là. Muslim, quand je bouse quelqu'un, maintenant, est-ce que vous voyez, vous, c'est écrit que c'est bouser? Est-ce que c'est écrit avec son... Non, ah, d'accord. Ce slim-là, ou là, comment qu'il s'appelle, ce Khabit, au moins 5 ou 6 sœurs se sont plaintes de lui aujourd'hui. 5 ou 6 sœurs se sont plaintes de lui. Non, il leur a envoyé je ne sais pas quoi. Et en même temps, comme lui, non, j'ai dit ça de lui, je n'oublierai pas de comment on dit le mot, je ne sais pas, c'est pas je plains, je gronde, ou là je ne sais pas dit, comment je dis, pour les sœurs qui quoi, qui ne veulent pas fermer leur PV. Non. Toute sœur devrait fermer son PV dans le DAS, pour que personne ne puisse lui envoyer une lettre ou quoi que ce soit. Sauf celle des sœurs qu'elle a dans la liste. Un étranger ne peut jamais lui envoyer quoi que ce soit quand elle ferme ses PV. Al-Muhim. Donc j'en veux à celles qui n'ont pas fermé leur PV. Non, pour ceux qui ne savent pas, qui disent comment fermer les PV, vous suivez ce que dit ici Coran Sunna. Il faut faire ainsi. Allez dans File. File. Vous voyez File, c'est pas ici, c'est dans le Khala avec la fenêtre principale du Paltok. File. Ensuite, setup préférence. Setup préférence. Privacy. Et cocher la dernière case. Non. Taïb. Elle devrait s'astreindre au port du voile islamique et ne prêter aucune attention à la nudité et l'exhibitionnisme dans son entourage. Non, dans son entourage. Pourquoi ? Moi, je cherche à sauver ma peau. Moi, je cherche à ne pas être privé de l'enfer. Moi, je cherche comment ravir Allah et comment demain, quand il me rencontre, il sera content de moi. Il me fera rentrer son paradis et m'éloignera de son enfer. Moi, ça ne m'intéresse pas ce que fait Jacqueline et Française dehors. Françoise, pardon. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Allah Ta'ala a dit. Et ce que dit Jacqueline de moi ou Françoise, qu'elle rit de moi, ou me crache dessus, ou dise de moi une terroriste, ou je ne sais pas quoi, tout ça, il rentre par une oreille, il sort de l'autre. Parce que Françoise et Jacqueline, demain, elle ne peut pas me sauver de l'enfer. Demain, elle me dira, moi j'ai rien dit, j'ai rigolé, c'est tout. Mais je t'ai pas enchaîné et je t'ai pas dit de ne pas le mettre. Non. Donc, il dit, ceci me rappelle l'attitude d'une jeune universitaire musulmane voilée qui n'est pas moins exemplaire que celle adoptée par les émigrés de la Mecque et les Ansarites, radiallahu ta'ala anhum. Un correspondant de presse en visite à l'université de Damas demanda à cette fille, cette étudiante, quelles sont les raisons pour lesquelles elle portait le voile durant la chaleur infernale de l'été. Il lui a dit, ma soeur, j'ai une question à vous poser, je suis journaliste. Elle lui a dit, tafadal. Il a dit, quelles sont les raisons qui vous poussent, c'est pas à porter, pardon, à supporter le voile durant cette chaleur infernale et torride. Elle a répondu, Mashallah, pour ceux et celles qui connaissent le Coran, elle a répondu, dit, le feu de la Jahannam, le feu de Jahannam, est plus intense en chaleur. Qul, naru jahannama aharru. C'est pas ashaddu harran. Qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun. Sourate 9, verset 81. Vous me dites que comment je supporte ce voile en une chaleur torride et pareille. Je vous réponds, j'ai comparé entre cette chaleur et la chaleur de demain. J'ai comparé entre la chaleur et la chaleur de demain. Je préfère la chaleur d'aujourd'hui plutôt que celle de demain. Car Allah Ta'ala a dit, le feu de Jahannam est plus intense en chaleur. Naam. C'est comme ça, le musulman et la musulmane avertis. Il fait des calculs et il compare. Qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? Naam. Maintenant, je choisis entre un soleil de 45 degrés, 52, 60 au maximum, et être épargné au feu ardent de 1000 degrés ou 2000 degrés ou 5000 degrés demain quand je rencontre Allah. Et mieux encore, être au paradis sous les ombres des arbres. Naam. Ou alors, je préfère maintenant que je sois bien dans ma peau, il n'y a pas de soleil, masha'Allah, et demain, c'est Jahannam ou l'Iyadu Billah. En effet, c'est avec des jeunes musulmans de cette catégorie, consciencieuses et pures, qu'on doit fonder des familles pour éduquer les générations futures selon la vertu, et multiplier ainsi le nombre de personnes braves et dotées d'esprit constructif au sein de la société musulmane. Or, ces femmes, de nos jours, et nous ne pouvons que dire louange à Allah. Louange à Allah, c'est quoi? C'est Alhamdulillah. Alhamdulillah. Toute femme, que Allah Ta'ala a raffermi son cœur, elle a mis le voile, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Alhamdulillah. Moi, à votre place, vous mes soeurs, je dis Alhamdulillah. Vous qui êtes en plein Europe, en plein perversité, en plein coffre, et vous êtes avec le voile, je dis Alhamdulillah. Il y a des femmes qui sont en Algérie, et en Libye, en Tunisie, au Maroc, et en Égypte, et qui ne mettent pas le voile. Et vous qui êtes en plein coffre, en plein, c'est difficile, et vous avez mis le voile. C'est le délil de la sincérité. C'est le délil que vous voulez ce qu'il y a chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne dites pas, c'est difficile, etc. Naam. Car, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ala inna sil'atallahi ghaliya. Ala inna sil'atallahi jannah. Comme ça dit le prophète alayhi wa sallam. Il a dit, la marchandise d'Allah est chère. La marchandise d'Allah, c'est la jannah. C'est le paradis. Elle est chère. Tu ne peux pas l'acheter sans avoir de beaucoup d'argent. Ici, tu ne peux pas rentrer au paradis sans que tu aies quelques problèmes, sans que tu aies un peu de machakil, sans que les gens ne rient de toi, sans que les gens ne crachent sur toi, sans que les gens ne disent des choses. Non, tu ne peux pas rentrer comme ça au paradis facilement. Il te faut des tests et pour que tu prouves que malgré ce qu'ils disent, malgré ce qu'ils font, je suis là comme une montagne, inébranlable avec mon djibab sur la tête, jusqu'à ce qu'on me fasse rentrer dans ma tombe. Allahu Akbar. Naam, notons par ailleurs, musulmans, est-ce que vous êtes là? Notons par ailleurs que le port du voile, naam, n'est pas une pratique innovée par l'islam. En réalité, toutes les lois relatives aux religions révélées avant l'islam ont prescrit le voile. Subhanallah, le voile, il n'a pas été révélé seulement en islam. Toutes les religions qui ont précédé l'islam ont parlé du voile. Naam. Cela est attesté par ce qui nous est parvenu de ces lois dans les livres révélés. En dépit des falsifications, je constate aussi dans la tenue pudique des non-chrétiens. Est-ce que la non-chrétienne, est-ce qu'elle est habillée en mini-jupe? Non, elle a un voile pudique. Naam. Naam, les non-chrétiennes, comme on le constate à travers l'habitude qu'ont les femmes chrétiennes de couvrir leur tête avant d'entrer dans une église. La chrétienne, même si c'est celle qui n'applique pas. Je ne parle pas de ce qu'ils appellent eux la sœur chrétienne. La sœur chrétienne porte un voile, subhanallah l'adim, yani on ne peut rien voir sauf son visage, subhanallah l'adim. Et vous remarquez que la chrétienne porte un voile large. Elle ne porte pas quelque chose de moulant, comme font certaines musulmanes. Quelque chose de large, subhanallah l'adim, alors qu'elle n'est pas dans le vrai chemin. Et alors, pour mourir, elle est à Jahannam. Mais, regardez combien qu'elle accepte, combien qu'elle souffre. Naam, elle accepte de ne pas se marier, en croyant que, comme lui dit le shaitan, tu vas te marier avec Jésus quand tu vas mourir. Donc, à cause de cela, elle accepte. Elle accepte de rester comme ça toute sa vie vierge. Naam, de, yani, s'habiller ainsi, de laisser tout, et de faire la da'wa. La da'wa, la chose dont elle est convaincue. Donc vous remarquez, la chrétienne, même celle qui n'applique pas, qui, la semaine, pendant ses jours, pendant yani, sa vie quotidienne, ne met pas le voile, mais dès qu'elle arrive à l'église, avant de rentrer, elle met un châle sur sa tête, ou bien un foulard. Il en ressort donc que l'actuelle désapprobation insolente du principe du port d'une tenue décente de la part de la femme représente une rébellion contre la totalité des lois révélées, hein, de la religion d'Abraham, de Moussa, de Issa, jusqu'à l'avènement de l'islam. Naam, une femme qui ne met pas le voile maintenant, elle s'est rébellée, quoi? Elle s'est rébellée. Une vraie rébellion contre quoi? Contre toutes les religions qui étaient avant. Celle de Moïse, celle de Jésus, celle avant et celle d'Ibrahim alayhi salam, subhanallah al-azim. En vérité, cette désapprobation, le fait de ne pas accepter le voile, traduit un désengagement à l'égard de la religion qu'Allah Ta'ala l'unique a communiqué à l'humanité tout entière à travers le temps, par le biais de ses messagers. Naam. Par le biais de ses messagers, afin d'enraciner dans l'âme humaine les valeurs de droiture, de vertu et de bienfaisance humaine. Et pour que les gens bien guidés fusionnent en une seule communauté. Comme Allah Ta'ala a dit, qu'est-ce qu'il a dit ? Les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté, puis ils divergèrent. Et n'était-ce une décision préalable de ton Seigneur, les litiges qui les opposaient seraient tranchés. Al-Muhim, l'obstination de certaines communautés humaines contemporaines, l'obstination de certaines communautés et sociétés contemporaines à dévoiler la femme et à l'inciter à être impudique, n'am, que ce soit dans les pays musulmans ou dans les autres pays du monde, indique leur égarement de la voie d'Allah. Cependant, si les Occidentaux persévèrent à inventer des styles vestimentaires nudistes et libertins, c'est que, entre autres, leur religion falsifiée ne comporte aucune restriction morale à ce sujet. Naam. Regardez, subhanallah al-azim, il n'y a pas, je ne sais pas si vous avez ça, si vous savez ça, il n'y a pas de plus difficile, autrefois bien sûr, envers la femme, et qui cherchait à cacher la femme, à l'habiller, à ne pas la laisser sortir, comme le christianisme, subhanallah al-azim. Autrefois, c'était vraiment, vraiment, vraiment interdit à la femme de se mettre au balcon, de etc., etc. Regardez maintenant, subhanallah al-azim, tellement que les gens fuient le christianisme, et tellement qu'ils ont senti qu'il ne comporte rien de vrai, naam, que font alors les prêtres pour les attirer? Maintenant, ils font comme ça des assises entre eux, les prêtres, et ils disent, maintenant tout le monde part vers l'islam. Les églises sont devenues vides. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens ne nous aiment plus, ne nous font plus confiance, etc. Alors qu'est-ce qu'ils font? À chaque fois, ils leur permettent des choses qui sont interdites, même dans leur dîme, ils leur permettent maintenant de danser dans quoi? Dans l'église. Faire des soirées avec l'alcool dans l'église. Naam. Les homosexuels, ils peuvent se marier dans l'église s'ils veulent. Naam. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Ça ne fait rien. L'essentiel, c'est d'attirer les gens. Tout le monde a quitté l'église et est parti vers l'islam ou bien vers l'athéisme. Alors on doit tout leur permettre pour qu'ils reviennent vers nous. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Naam. Quant aux musulmans, en dépit de l'apathie, naam, et de la négligence que certains d'entre eux manifestent de temps en temps à l'égard de leur religion, ils ne doivent en aucun cas, accepter une telle perversion. Car le Coran, ce livre authentique, a été révélé puis préservé par Allah. Et il continue à le réciter nuit et jour. Or, le texte du Coran ainsi que ceux de la Sunna ne cessent d'avertir ceux qui désobéissent à Allah et à son messager, les menaçant de vivre dans le trouble dans ce bas monde et de subir un supplice douloureux dans l'au-delà. Écoutez bien le verset qui va suivre. Écoutez bien le verset qui va suivre et mettez-le toujours entre vos yeux. Frères et sœurs, écoutez bien le verset qui va suivre et laissez-le toujours entre vos yeux. Naam. Ne l'éloignez pas de vos yeux et de votre cœur. Regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. 24, surat 24, verset 63. Surat 24, verset 63. Il a dit وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Naam. وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Ici il a dit, dans le verset 4, 63, il a dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux donc, naam, c'est celui-là le verset, naam, que ceux donc qui contreviennent à son ordre
Naam. Prenne garde, la dernière ayah, que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Allah Ta'ala a dit, attention, quiconque s'oppose ou bien désobéit à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, qu'est-ce qui va lui passer? Une des deux choses. Ou bien, ici dans cette vie, il va avoir le trouble et des épreuves vont lui arriver. Ou bien, s'il lui arrive rien ici, il va mourir. C'est un châtiment douloureux qui l'attend. Subhanallah. Toute personne qui désobéit à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle sera toujours entre l'enclume et le marteau. C'est-à-dire ici, ou bien elle aura l'enclume qui sera le trouble et les problèmes et les malheurs. Ou bien c'est là-bas et encore c'est plus grave. C'est quoi? C'est le châtiment douloureux de l'enfer. Donc c'est mieux pour quelqu'un qu'il paye ici que plutôt il paye là-bas. Naam. C'est à la lumière, naam, c'est à la lumière de cette vérité qu'on parvient à comprendre, naam, qu'on parvient à comprendre, pardon, je vois où j'étais, c'est à la lumière de cette vérité qu'on parvient à comprendre l'échec cuisant de tous les défaitistes qui se sont évertués à inciter la femme à se débarrasser du voile islamique. Tous ceux qui ont essayé n'ont jamais pu arriver à leur fin, alhamdoulilah. Même dans les pays musulmans qui ont connu des propagandes qui consistaient à inciter, voire à obliger la femme à abandonner son voile ainsi que sa pudeur, même dans ces pays, la femme musulmane consciente et éduquée s'est remise à porter la tenue islamique qui reflète sa pudeur et sa dignité. Et ce grâce à la résistance des croyants et croyantes appartenant au mouvement d'éveil islamique à travers le monde. Naam. L'échec flagrant des partisans de l'occidentalisation et de la débauche est donc une réalité. Tel fut, entre autres, le cas des partisans d'Atatürk. Atatürk, que vous connaissez, qui a enlevé l'islam de la Turquie pour le remplacer par Naam. Comment ça s'appelle, c'est pas l'athéisme, j'ai oublié comment ça s'appelle, Mohim. Après on reviendra. Naam. Attendez, comment on dit en arabe, ça fait longtemps que j'ai pas employé ce mot. C'est quoi l'ilhad? Mohim. Il n'y a plus d'islam dans l'État. Il n'y a plus d'islam dans l'État. Ça a un nom, j'ai oublié. Et le cas des partisans d'Atatürk en Turquie. De Reza Pehlavi en Iran, Khouja en Albanie, et de Murqus Fehmi ou bien Qasim Amin ou bien Houda Sharawi en Égypte. Tout cela, et c'est là que je viens de citer, non, sont les personnes les plus connues qui sont contre, qui sont pour la laïcité bien sûr, et spécialement contre le voile de la femme musulmane. Naam, la laïcité. Atatürk, naam, a mis la laïcité, naam. Mieux, certains d'entre eux, naam, se sont rétractés et ont abandonné leurs idées antérieures qui appelaient la femme au dévoilement et à une mixité inconsidérée avec les hommes. Ainsi, Nawal Sa'dawi, une égyptienne très connue pour son adversité au voile islamique. Voile islamique. Ainsi, Nawal Sa'dawi, dans le passé, de critiquer avec véhémence le voile ainsi que celle qui le porte et s'obstiner avec une hargne singulière à inciter à abandonner le voile. La voici qui se ravise maintenant et critique l'impudicité de la femme occidentale. Le nudisme scandaleux de la femme occidentale. Elle dit, dans les rues de Londres, je constate que les femmes
sont quasi nues. Ces femmes-là exposent leur corps comme une marchandise. C'est elle qui dit, elle dit, à mon avis, les vêtements ont une fonction bien précise. Protéger le corps des conditions climatiques. Ils ne doivent en aucun cas servir de moyen de séduction. Non, ils ne doivent en aucun cas servir, c'est-à-dire les vêtements, servir de moyen de séduction. Comme font la plupart des femmes. Elles mettent les plus beaux habits, etc. Pourquoi ? Spécialement pour séduire les gens. Et spécialement pour séduire les hommes. Et quand elle est avec son mari, elle ne s'habille qu'avec le vieux vêtement et le déchiré. Non, le vieux vêtement, le déchiré, le sale. Celle-là le garde pour son mari. Non. Mais quand elle sort dehors, alors elle dit, si la femme, regardez ce que dit Nawal Sa'dawi. Regardez ce que dit celle qui, le djilbab, c'est son grand ennemi. Voilà ce qu'elle dit à la fin. Elle dit, si la femme se considérait en tant qu'être humain et non en tant que marchandise, elle n'aurait aucun besoin de se dénuder. Si la femme se considérait comme un être humain et ce n'est pas une marchandise qu'on étale dans la rue, alors elle n'aurait jamais eu besoin de se dénuder. Non. Donc après un long parcours, Nawal Sa'dawi s'est rendu compte qu'il fallait en premier lieu ôter le voile, non pas des corps, mais des esprits, le voile de l'esprit, Naam, notamment chez les intellectuels, hommes et femmes. Car selon elle, selon Sa'dawi, un bon nombre de femmes portant le voile et ayant atteint un niveau scolaire moyen manifestent une mentalité éclairée qui dépasse de loin celle des femmes instruites non voilées. Subhanallah, Naam, des femmes voilées de niveau moyen. Subhanallah, Allah Ta'ala leur a donné la lumière, elles ont une mentalité beaucoup plus éclairée que celle, Naam, des familles instruites mais non voilées. Naam. Elle dit, mon programme, elle dit, elle, mon programme, à court terme, consiste à ôter le voile de l'ignorance qui couvre les esprits des intellectuels des deux sexes. Naam. Elle ajoute encore, je connais des femmes hautement instruites, des professeurs, des médecins, des ingénieurs, mais qui souffrent d'analphabétisme politique, social et intellectuel. Naam. Elle a dit ça où ? La revue koweïtienne qui s'appelle El Mujtama, numéro 932, en date du 18 janvier 1989. 18 janvier 1989. Telle fut également la position d'Ihsan Abdel Quddus, ce célèbre romancier qui inonda le marché littéraire par ses romans qui incitent la femme à quitter son foyer et à se mêler aux hommes dans des soirées dansantes organisées par certains clubs. Naam. Dans une interview accordée au quotidien koweïtien Al-Naba, Naam, ce même romancier déclare, qu'est-ce qu'il déclare ? Il a dit, je considère que le foyer et les enfants représentent la responsabilité principale de toute femme. Ceci s'applique en premier lieu à mon cas personnel, car sans le dévouement total de ma femme à notre foyer et à nos enfants, je n'aurais jamais pu ni fonder une famille, ni réaliser la stabilité et la réussite que j'ai connue. Naam, il a dit, si ce n'était pas ma femme qui était restée dans le foyer, moi qui incitais les femmes à sortir, si ce n'était pas ma femme qui était restée dans le foyer, je n'aurais jamais connu ses réussites. Dans un autre passage de la même interview, il dit, De ma vie, je n'ai jamais souhaité me marier avec une femme qui travaille. Ma position là-dessus est bien connue. Dès le début, j'étais conscient de l'importante responsabilité ménagère incombant à la femme. Naam. La responsabilité de la femme à la Naam. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait sortir une umma et les récompenses qui l'attendent demain devant Allah Ta'ala pour cette astreinte à quoi? À faire ce que Allah Ta'ala lui a demandé, comme il a dit dans le Coran, wa qarna fi buyutikunna. Naam. Maintenant, la femme sort comme l'homme. Elle sort le matin, à 6h du matin, il fait nuit. Elle revient à 17h ou je ne sais pas, 18h, il fait nuit. Elle ne sait pas ce qui s'est passé avec ses enfants. Ses enfants étaient je ne sais où, chez sa grand-mère ou chez sa mère à elle, ou bien avec la servante qui lui apprenait je ne sais pas quoi, qui faisait avec ses enfants je ne sais pas quoi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le musta'an. Non. 16e mot. Chapitre 1, 16e mot. Elle évite la mixité inconsidérée avec les hommes. Elle évite la mixité inconsidérée avec les hommes. Tu as écrit? Alhamdulillah. Wasbak. Coran et Sunna. Mais une seconde le Coran, je reviens inshallah ta'ala dans une minute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je disais que, 16e mot, toujours premier chapitre, elle évite la mixité inconsidérée avec les hommes. Une femme musulmane avisée évite autant que possible la mixité avec les hommes. Elle évite autant que possible la mixité avec qui? Avec les hommes. Non. Elle ne l'encourage pas. Et aussi, non seulement elle évite, mais elle n'encourage pas la mixité. Et elle tâche de ne pas se trouver dans des situations de promiscuité avec les hommes. En agissant ainsi, elle se conforme à la tradition de Fatima, radiallahu ta'ala, fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et aussi des mères des croyants et des femmes de nos pieux prédécesseurs parmi les compagnons, les épigones, ainsi que ceux qui adoptèrent leur conduite en suivant le droit chemin. La femme musulmane avisée doit savoir que la mixité entraîne de graves prix aux femmes. Les Occidentaux qui appliquent la mixité à grande échelle ont constaté son impact sur la dégradation du niveau de l'enseignement. Et ils ont par conséquent opté pour la séparation des deux sexes dans plusieurs universités et établissements scolaires. Un bon nombre de personnalités musulmanes appartenant au secteur de l'éducation ont visité l'Europe, la Russie et les États-Unis et ont constaté de près la séparation entre les deux sexes dans ce domaine. Le témoignage de l'illustre pédagogue syrien Ahmed Mazhar Al-Azma est assez significatif. Envoyé par le ministère de l'éducation syrien en Belgique pour une mission scientifique, il visita plusieurs écoles belges. Lors d'une visite à une école primaire de filles, il demanda à la directrice « Pourquoi n'avez-vous pas adopté la mixité pour ce stade d'enseignement ?» La réponse de la directrice fut « C'est parce que nous avons constaté les méfaits de la mixité, même dans le cycle primaire. » Subhanallah al-Azim. Les Russes ont également abouti à cette conviction. Ils ont mis à jour des filières universitaires à part où la mixité n'a pas droit de cité. Aux États-Unis, il existe plus de 170 sections universitaires qui ne sont pas mixtes. Voilà, aux États-Unis, plus de 170 sections universitaires qui ne sont pas mixtes. C'est un dos pour les musulmans qui cherchent la mixité. C'est un dos pour eux. Voilà, les kofars maintenant, ils n'ont pas la mixité. Non, cela est le résultat du constat des pédagogues et des responsables de ces universités concernant les conséquences néfastes de la mixité dans une société qui s'y est pourtant habituée dans les différents domaines de la vie sociale. Les exemples mettent en exergue les méfaits de la mixité dans le monde sont innombrables. Non, ils convergent tous à confirmer la sagesse de l'islam qui, en interdisant la mixité, a évité aux sociétés musulmanes les conséquences désastreuses de ce phénomène qui gâche les énergies et sème le trouble dans les âmes des esprits. 17e, chapitre 1, 17e. Elle ne serre la main à aucun homme, à part les mahrams. 17e, elle ne serre la main à aucun homme, à part les mahrams. J'attends, Inch'Allah, que vous écriviez. Assalamu alaikum. De toute évidence, une musulmane qui n'a pas l'habitude de se mêler aux hommes ne serre pas la main en saluant ceux, qui ne lui sont pas interdits au mariage. Un tel comportement reflète l'attachement aux paroles et à la conduite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car l'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte que Aïcha, qu'Allah l'a gré, a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, lorsque des croyantes émigraient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les mettait à l'épreuve en leur récitant la parole d'Allah, qu'Allah ta'ala a dit, aux croyants, quand les croyantes viennent à vous en émigrer, éprouvez-les, jusqu'à la fin du verset. Si elles déclarent avoir accepté les conditions exprimées dans ce verset, alors le messager d'Allah leur dit, allez donc, j'ai reçu votre serment d'allégeance. Aïcha dit, par Allah, jamais la main du messager d'Allah n'a-t-elle touché la main d'une femme étrangère. Il se contentait de leur faire prêter serment en parole. Par Allah, jamais le messager d'Allah, alayhi sallam, n'a-t-il fait prêter les femmes serment que conformément à ce qu'Allah lui a ordonné. Quand il leur faisait prêter serment d'allégeance, il leur disait, j'ai pris votre serment en parole. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de donner ma main. J'ajoute ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith numéro 5045, qui se trouve dans Sahih Jama' de Sheikh Al-Albani. Hadith combien? 5045. Il a dit, La an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyat min hadid خير لهم من ان يمس امراه لا تحل له. Le prophète Ali Sassam a dit, si on frappait l'un de vous avec une aiguille en fer, l'aiguille, là, vous connaissez la grande aiguille avec laquelle on coule les matelas, etc., combien qu'elle est grande, il a dit, si on frappait quelqu'un avec une aiguille pareille sur votre tête, non, et bien sûr le sang va couler, etc., il a dit, c'est mieux que de toucher une femme qui m'est étrangère. Donc, cela s'applique à l'homme qui touche la femme qui lui est étrangère, et cela s'applique à la femme qui touche l'homme qui lui est étranger. Non, ça, si elle le touche seulement avec la main en le saluant. Qu'en est-elle de celles à leur cousin, à leur cousine, et qu'en est-elle de celles qui font yani, des choses graves. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait. 18e, chapitre 1, 18e. Elle ne voyage jamais sans mahram. Elle ne voyage jamais sans mahram. L'islam oriente la femme musulmane à ne voyager qu'en compagnie d'un mahram, étant souvent entourée de difficultés, voire de risques et de dangers. Il est donc déconseillé à la femme d'affronter tout cela sans l'aval d'un mahram qui l'assiste et la défend. D'où la multiplicité des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdisent à la femme de voyager tout seul. Entre autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tusafiru al-mar'atu illa ma'a dhi mahram » hadith rapporté par Cheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghalil, numéro 995. La femme ne voyage qu'avec un mahram. La femme ne voyage qu'avec un mahram. Naam. Et dans un autre hadith, il a dit, dans ce hadith, il n'a pas cité la durée. Dans un autre hadith, il a dit un jour et une nuit. Dans un autre hadith, il a dit trois jours et trois nuits. Mais dans ce hadith, il n'a pas cité la durée. Ça veut dire, tout voyage, elle ne le voyage pas sans mahram. Sauf bien sûr, si elle est dans la daroura. C'est quoi la daroura par exemple? C'est pour faire quoi? Pour faire la hijra. Elle est dans un pays de coffre, elle n'a pas trouvé qui l'accompagner pour faire la hijra dans un pays arabe. Naam, elle l'a fait seule. Certaines compagnonnes comme Ummu Kulthoum bint Mu'ayth radiallahu ta'ala anha, et d'autres aussi ont fait quoi? Ont fait la hijra sans mahram. Car c'est quoi? C'est ici, c'est devenu une daroura. C'est-à-dire, on est entre deux feux et entre deux mots. Le mot de rester, le mal de rester dans Bilad al-Kufr, et le mal de voyager seul. Quel est le plus grand mal? Le plus grand mal, c'est de rester dans le pays Kufr. Donc, je voyage seul, naam, c'est juste une heure ou deux, et je sors du grand feu. Je sors du grand feu, du grand mal. Tayyib. La vraie femme musulmane est celle qui obéit à son Seigneur, exécute ses ordres, évite ses interdits, accepte ses lois et s'attache aux enseignements, aux rites et aux règles de conduite édictées par sa religion. Elle doit manifester, non, elle doit manifester toute la patience nécessaire pour accomplir les commandements d'Allah, le Tout-Puissant. Même s'ils ne correspondent pas à certains concepts sociaux dominants. Naam. Quand Allah Ta'ala te dit de faire une chose, ou là son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toujours dans ton intérêt. Même si tu as compris la sagesse de les commandements, ou tu les as pas compris. C'est toujours pour ton bien. Même si apparemment, ça se contredit avec, naam, les concepts des sociétés où nous vivons, ou bien ça se contredit avec les idéologies des gens, ou bien ça se contredit avec mes passions. Moi je veux telle chose et Allah veut le contraire. Naam, si tu choisis ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras toujours la meilleure dans cette vie, dans l'au-delà, pas seulement dans l'au-delà, dans cette vie aussi tu seras dans cette vie la plus heureuse et la meilleure, et celle qui sera la plus victorieuse. Bidlah azza wa jal. Allah ta'ala, vous connaissez tous le verset où il dit وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَوْا بِالصَّبْرِ. A juré, il a dit par le temps, et certains disent par Al-Asr, la prière du Asr, tellement elle est importante. Il a juré par la prière. Je jure, Allah Ta'ala a juré. Imaginez, Allah Ta'ala a-t-il besoin de jurer? En le croissant qu'il jure. Alors pourquoi il jure? Il jure pour te dire que c'est très grave la chose qu'il va dire. Je jure par Salat al-Asr, ou bien je jure par le temps que l'homme, c'est-à-dire l'être humain, l'homme et la femme, est certes en perdition. Il va perdre. Sauf, attention, voilà ceux qui ne vont pas perdre. Tous les autres vont perdre. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres et s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Donc, toute personne, moi, toi, X, Y, mon père, ta mère, mon grand-père, ma voisine, tous nous sommes des perdants. Sauf, attention, on va voir si on rentre dans l'exception. Si on rentre dans l'exception, on doit remercier Allah. Sauf si on croit. Donc, alhamdoulilah, si on est dans cette salle, c'est qu'inchallah, on a cru. Deuxièmement, il faut quatre choses. Accomplissent les bonnes œuvres. On peut croire en Allah Ta'ala et en son prophète et faire la zina. Croire en Allah et en son prophète et boire de l'alcool. Croire en Allah et en son prophète, ne pas donner la zakat. Croire en Allah et en son prophète et la femme sort avec la mini-jupe. Croire en Allah et en son prophète et ne pas vouloir aller au hajj alors qu'on a les moyens. Et comme ça, croire en Allah et en son prophète, ne pas vouloir faire la hijra. Ça m'a beaucoup plu dans ce pays. Je me suis habitué. J'ai tout facilement. Si je fais la hijra, c'est un peu difficile. Là, ma paye, il n'y a pas. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Il n'y a pas les fromages, il n'y a pas les jus, il n'y a pas les beaux habits. Oh, c'est difficile. Naam. Ensuite, il a dit troisièmement, et s'enjoignent mutuellement la vérité. Quand on se rencontre, hein, on s'enjoint la vérité. Quand je rencontre quelqu'un, je lui parle au maximum de quoi ? Du din, des choses que j'ai apprises. Quand on se rencontre la sœur, elle ne parle pas seulement de mariage et de je ne sais pas quoi. Elle parle d'abord du din. Écoute ce que j'ai entendu. Écoute ce que j'ai lu. Écoute ce qui se passe demain quand on va mourir. Écoute ce qu'a dit le prophète, alayhi salam. C'est ça. Troisième condition, s'enjoignent la vérité. Et quatrièmement, et s'enjoignent mutuellement l'endurance et la patience. Car, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas facile. Car le paradis a été entouré de choses, bien sûr, qu'on déteste ici dans cette vie. Il a été entouré de choses qui nous sont difficiles à plus ou moins à faire, que notre âme et nos passions n'aiment pas. Le paradis, c'est la prière. C'est jeter la couverture et faire le wudu. Hein, le wudu. L'âme, ensuite, c'est la prière. Descendre, lire, ceci, cela, se prosterner. Et c'est ceci, cela, tous les commandements. L'âme. Et Jahannam, l'enfer a été entouré de quoi ? De tentations. Oh, Jahannam, c'est très facile. Qu'est-ce qui est facile ? De rentrer au paradis ou de rentrer en enfer ? De rentrer en enfer, c'est très facile. Maintenant, hein, je bois un peu d'alcool. Khlas, j'ai mis un pied à l'enfer. Maintenant, je jette mon djilbab. J'ai mis un pied à l'enfer. Maintenant, je dis, je fais face à la Isha jusqu'à demain. J'ai mis un pied en enfer. Et comme ça, c'est très facile. Mais le djinnah, la marchandise est chère. Car ce que tu vas trouver dans le paradis, tu ne l'as jamais vu. Ni tu peux le trouver ailleurs, ce qui t'attend là-bas. Te suffit, s'il n'y avait rien dans le paradis, s'il n'y avait ni à boire, ni à manger, ni les femmes, ni les hommes pour les femmes. S'il n'y avait pas cela, ça nous aurait suffi de voir Allah Ta'ala l'exalté soit-il. Allah Ta'ala l'exalté soit-il. Je vois Allah, c'est pour moi le plus grand délice du paradis. D'ailleurs, si on me faisait choisir entre le paradis et voir Allah, je préfère voir Allah. Non, si on me faisait choisir, je préfère voir Allah. C'est pour ça que les savants disent que si Allah Ta'ala faisait rentrer les kuffars au paradis, alors qu'il ne va pas les faire rentrer, supposition, si Allah Ta'ala faisait rentrer les kuffars au paradis, mais il leur dira, mais à condition que vous ne me voyez pas, c'est tout. Vous allez rentrer au paradis, mais vous n'allez pas me voir. Et les savants ont dit, alors ils vivront vraiment malheureux dans le paradis. Non, à quoi ça sert dans le paradis d'être si je ne vois pas Allah Ta'ala qui m'a créé. Subhanallah l'Azim, subhanallah l'Azim. Je disais, 19e mot, elle accepte la prédestination et les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle accepte la prédestination et les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Écrivez cela. Muslim, es-tu là? Elle accepte la prédestination et les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il n'y a rien d'étonnant à ce que la femme musulmane qui obéit au commandement de son Seigneur soit pleinement satisfaite de la prédestination et des décrets d'Allah ta'ala, al-qada al-qadr. Car cela représente l'un des signes les plus importants de la foi, de l'obéissance et de la piété chez la femme musulmane. La femme musulmane consciente des préceptes de sa religion manifeste en toutes circonstances sa satisfaction devant ce qui lui arrive de bien ou de mal. Car dans les deux cas, s'il lui arrive un bien ou bien s'il lui arrive un mal, cette satisfaction ne lui sera que bénéfique. Le messager d'Allah, alayhi salam, a dit, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, étonnant est le destin du croyant. Tout ce qui lui arrive est bénéfique. Et cela n'est accordé à aucune autre personne, hormis le vrai croyant. S'il reçoit un bienfait, il remercie Allah, et ceci lui est bénéfique. Si par contre, il est atteint par un malheur, il endure, et cela lui est également bénéfique. Hadith rapporté par Muslim, volume 9, page 103. Sharh Muslim, volume 9, page 103. La femme musulmane doit avoir la foi profonde que durant sa vie, ce qui l'atteint n'aurait pu l'épargner. La chose qui l'a atteinte, elle n'aurait pu l'épargner. Et ce dont elle a été épargnée n'aurait pu l'atteindre. Naam, ma soeur, quand il t'arrive un malheur, ne dis pas, ah, si j'avais pas fait ceci ou cela. Mais dis, qaddarallahumma shafa'al, et la prochaine fois, je ferai pas ceci et cela. Naam, c'est pas j'aurais pas dû faire. Non, la prochaine fois, je vais pas faire cette chose, je vais pas la recommencer. Mais maintenant, qaddarallahumma shafa'al, c'est passé, ça devait se passer, ça devait arriver, 50 000 ans, avant que Allah Ta'ala ne me crée, il ne crée l'univers, il avait écrit sur la tablette préservée que cette chose devait arriver, que cette maladie devait arriver, que cette mort devait arriver, que cet accident devait arriver, que ce licenciement devait arriver. Et comme ça, Qaddar Allah, on a chafal, Allahumma, adjirni fi musibati, et aussi, adjirni fi musibati, wa akhlif li khayrin mina. Al-Muhim, car, en cas de bienfaisance, s'il t'arrive quelque chose de bien, que fait la musulmane? Elle exprime sa gratitude à son Seigneur, le bienfaiteur et le tout donateur. Pourquoi? Pour faire ainsi partie des femmes reconnaissantes. Qu'est-ce qu'elle dit? Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimu salihat. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimu salihat. Et, en cas, s'il lui arrive un malheur, elle patiente et elle endure. Elle dit, qaddar Allahumma shafa'al. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li ghayrina. Et si elle fait comme ça, qu'est-ce qui se passe? Elle rejoint par conséquent les femmes endurantes. Donc, dans les deux cas, elle fera partie de celles qui bénéficieront du salut. Non. S'il y a la chose bien, la ni'ma, elle reconnaît et elle fait les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit alhamdulillah, elle remercie Allah. Donc, elle fait partie de quoi? Des femmes reconnaissantes. Si lui arrive un malheur, elle dit qaddarallahu ma sha fa'al, et elle fera partie de qui? Des endurantes. Cette profonde foi enracinée dans l'âme de la femme musulmane lui donne la force nécessaire pour supporter tous les drames de la vie et les accepter avec un esprit constamment satisfait de son destin. En s'armant de patience, des prières et de confiance en la récompense d'Allah, elle lui exprime en permanence sa gratitude pour ce qu'il lui a prédestiné. Elle agit ainsi à l'exemple d'Al-Khamsa, qui dit et qui a dit, lorsqu'on lui annonça la mort en martyr, shahid, la mort en martyr de quatre de ses fils, ou de ses quatre fils, elle n'en avait que quatre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Alhamdulillah, qui m'a honoré par leur martyr. J'espère qu'il me réunira avec eux sous son éternelle miséricorde. Elle doit chercher chez l'endurance. Naam. Vous avez remarqué que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait des problèmes, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait directement dans la prière. Kana alayhi wa sallam, idha hazabahu amr, shara'a fi salat. Sah? Le prophète, alayhi salam, dès qu'il avait un problème, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait directement dans la prière. Ibrahim, alayhi salam, quand le tyran, avec ses soldats, lui a pris sa femme, Sarah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a téléphoné à un général ou là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré directement dans la salat. Et elle, Sarah, quand le tyran l'a pris et a voulu abuser d'elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a dit, laissez-moi seulement faire quoi? Faire les wudu. Et, subhanallah l'adim, elle est rentrée dans les doigts et la prosternation. Subhanallah l'adim. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les hommes pieux et vertueux et les vertueuses et pieuses, dès qu'elles ont un problème, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans la salat. ils imitent le prophète sans flamme et les vieux et les plus prédécesseurs. Maintenant, de nos jours, les choses se sont, quoi, se sont renversées. La sœur, dès qu'elle a des problèmes, elle lâche la prière. Le frère, dès qu'il a des problèmes, il délaisse la prière. Pourquoi tu fais plus la prière? Je suis pas bien, j'ai des problèmes. Et toi, ma sœur, tu as jeté le djilbab, tu as fait ceci. Je vais pas bien, j'ai des problèmes. Subhanallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait des malheurs, des problèmes, il rentrait dans la prière. Et nous, quand on a des malheurs, on délaisse la prière. Que Allah subhanahu wa ta'ala éclaircisse nos cœurs qui sont vraiment là, pleins de ténèbres et d'obscurité. Al-Muhim, elle secourt dans la prière et l'endurance, à l'instar d'Esma bintou Umeis, pardon, Umeis, qui grâce à ce comportement, supporta la mort de son mari Ja'far ibn Abi Talib, puis celle de son second époux Abu Bakr Siddiq, avant celle de son fils Muhammad ibn Abi Bakr. Subhanallah al-Azim. Regardez, Esma bint Umeis, elle perd son mari Ja'far ibn Abi Talib, elle se marie avec Abu Bakr Siddiq, elle perd Abu Bakr Siddiq, ensuite elle perd son fils Muhammad, et elle est là comme une montagne que rien ne peut ébranler. Des femmes semblables à Al-Khansa et à Esma bint Umeis sont nombreuses dans l'histoire de la femme musulmane qui croit en Allah, endure son destin et escompte sa rétribution. Et Allah les gratifiera, certes, de récompenses incommensurables. Allah Ta'ala a dit, ceux qui sont endurants recevront leur récompense au-delà de tout compte. 31:10. Allah Ta'ala a dit que je donnerai à ceux qui ont patienté, des récompenses au-delà de tout compte. Personne ne peut compter. Chaque a quelque chose comme récompense de compter. Par exemple, la salat, par exemple, te donne, par exemple, 100 récompenses. Par exemple, pour la zakat, il te donne 200, par exemple. Mais pour l'endurance, pour la bonne œuvre, qui est l'endurance, il te donne sans compter. Non, personne ne peut compter combien qu'il peut donner. 20e, elle est repentante. 20e, elle est repentante. Vous avez écrit cela? Alhamdulillah, 20e, elle est repentante. Il arrive que quoi? Une seconde. Non. Il arrive que la croyante manque à ses devoirs, néglige les commandements de son Seigneur ou commet des erreurs qui ne sont pas dignes d'une musulmane consciencieuse. Cependant, elle ne doit pas persister dans cette négligence. Dès qu'elle s'en rend compte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit s'empresser à se repentir de son erreur et implorer le pardon d'Allah pour retrouver l'éclat de sa foi, la pureté de son âme et l'enthousiasme qu'elle avait pour sa religion. Elle implore le pardon d'Allah et revient vers lui, repentante, car Allah Ta'ala a dit, lorsque une suggestion du diable les touche, se rappelle son châtiment et les voilà devenus clairvoyants. Donc Allah Ta'ala, remarquez ce qu'il a dit dans ce verset 7, surat 7, verset 201, pardon. Qu'est-ce qu'il a dit? Allah Ta'ala a dit, ceux qui craignent Allah, lorsque une suggestion ou bien une tentation du diable les touche, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rappellent du châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Donc ceux qui, écoutez bien, ceux qui craignent Allah, c'est possible qu'une tentation des diables ou bien du diable les touche. Car on n'est pas infaillible. Non, est-ce qu'on est infaillible? On n'est pas infaillible. Moi je fais des fautes, vous faites des fautes. Mais est-ce que quand on fait la faute, on est content et on rit et ça ne nous dit rien, et peut-être même on incite les autres à faire la même faute, ou bien
on se rappelle le châtiment d'Allah et nous voilà devenus clairvoyants. C'est ça la balance. C'est ça le signe. C'est ça le délil pour que tu saches qui est celui qui craint Allah. Car celui qui craint Allah, ce n'est pas celui qui ne fait pas de faute. Attention, il n'y a personne qui ne fait pas de faute. Sauf les prophètes, les messagers d'Allah ne font pas les grandes fautes. Nous tous, on fait des fautes. Mais attention, quand on fait une faute, est-ce qu'on se repent, on regrette, on pleure, on fait la prière, on fait l'aumône pour que Allah nous pardonne, ou bien on continue comme si de rien n'était. Si tu continues comme si de rien n'était, tu n'es pas de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si, malgré ta faute, si elle est la plus grande faute du monde, tu as délaissé l'islam, tu t'es apostasié, tu es allé vers le christianisme, tu es allé à l'église, tu as fait la messe, tu as fait la zina chaque soir, mais tu es revenu vers Allah. Tu reviens vers lui, il revient vers toi. Tu vas vers lui en faisant un menton, il vient vers toi en faisant une coudée. Tu vas vers Allah en marchant, il vient vers toi en courant. Donc, apprenez bien que l'essentiel c'est quoi? C'est de repentir. Bien sûr, j'essaie au maximum de ne pas faire des fautes. Mais si je fais la faute, je dois vite revenir, me repentir et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ensuite, Inch'Allah, ici on arrête, on ajoute celle-là, Inch'Allah ta'ala, et on arrête. Naam. Elle assume, 21, elle assume pleinement sa responsabilité envers sa famille. Elle assume pleinement sa responsabilité envers sa famille. Écrivez 21. Elle assume clairement sa responsabilité envers sa famille. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Auprès d'Allah Azza wa Jal, la responsabilité de la musulmane envers ses enfants n'est pas moins importante que celle d'Allah. Non. Elle est, même dans certains cas, plus importante. Car en raison de sa présence prolongée en compagnie de ses enfants, la femme est mieux placée que son époux pour découvrir les besoins et les secrets de la vie de chacun d'entre eux. Naam. L'époux, il est en principe au travail. Il part le matin, il revient le soir. La femme est en principe au foyer. Donc, du matin au soir, elle est avec ses enfants. Ses garçons ici, filles. Elle remarque des choses que l'époux ne remarque pas. Il est absent. Et même s'il est là, il n'a pas le temps pour le remarquer. Mais la femme, du matin au soir, elle est avec ses enfants. Elle remarque beaucoup de choses et beaucoup de secrets. Naam. Et donc, elle peut corriger, naam, montrer, réparer. Subhanallah l'Azim. La femme musulmane consciencieuse ressent cette responsabilité chaque fois qu'elle entend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Chacun d'entre vous est dépositaire. Chacun d'entre vous est responsable de ce qui lui a été confié. L'imam est dépositaire et il est responsable des sujets confiés à sa gouvernance. L'homme est dépositaire de sa famille. Il en est responsable. La femme est dépositaire du foyer de son époux. Elle en est la responsable. Le servant est dépositaire des biens de son maître. Il en est le responsable. Ainsi, chacun d'entre vous est dépositaire et chacun d'entre vous est responsable de ce qui lui a été confié. » Hadith Sahih. Bukhari Muslim. Ce sentiment de responsabilité doit constamment inciter la musulmane à corriger les mœurs de ses enfants en cas de dérive et à les écarter de toute négligence constatée dans leur comportement. Et si elle se met à passer sous silence leur déviance, leur vulnérabilité morale, leur paresse ou leur négligence, c'est qu'elle souffre d'une fragilité sur le plan religieux.
et même elle souffre d'un manque de personnalité et d'une incapacité intellectuelle. Naam, elle voit des choses pareilles et elle ne croit, elle n'essaie pas de yani, corriger. Elle n'essaie pas de les inciter à quoi ? À s'éloigner de ses défauts. Elle laisse passer des choses pareilles. Et moins encore, elle n'en parle pas à son mari. Au lieu de lui dire, aide-moi, voilà ce que je viens d'apprendre. Tu viens de voir ton fils avec la cigarette. Tu viens de voir ta fille en train de parler avec quelqu'un dans le téléphone, etc. Non. Au lieu qu'elle lui dise pour qu'il voit comment trouver une solution, non. D'abord, elle essaye de laisser ça en cachette entre elle et sa fille, elle et son fils, avant que ça n'arrive au père. Le père, en général, il est nerveux, il ne se retient pas, il peut faire des choses graves. Donc, je donne un ultimatum, premier et dernier avertissement. Entre moi-même, qui suis la mère, et ma fille et mon fils. Je vais dire, je ne vais pas faire arriver ça à ton père, sinon ça sera ta fin. Mais attention, tu vas me promettre que tu vas faire le repentir, tu ne feras plus cette chose. La deuxième fois qu'il refait, non, je vais annoncer ça à son père. Ou bien, je lui annonce la première fois. Si je sais quoi, si je sais que mes enfants non, me prennent pour une faible. Et quand je leur dis, j'essaie de leur faire peur, ils me disent, va jouer, laisse-moi, va. Alors, dans ce cas, je dis à qui ? Je dis à l'époux, car si je cache, c'est que vraiment, je suis donc avec eux. Je ne suis pas contre eux, donc je suis avec eux. Donc je suis satisfaite qu'ils fassent ces choses-là. Naam, qu'Allah Ta'ala n'aime pas. La preuve, je n'ai pas voulu dire à mon mari. Naam. Et ce qui est dommage, c'est que beaucoup de gens, excusez-moi si je dis en France, qui se marient, naam, beaucoup de frères n'ont pas le sens de la responsabilité. Ça, c'est dommage si je le dis aussi. C'est dommage. Mais beaucoup de frères, à ma connaissance, sans être jamais partis en France, ou plutôt, yani, sans être partis, disons, ces temps-ci, je suis parti à Marseille il y a 10 ou 15 ans, Al-Murim, d'après ce que je lis, ce qu'on m'écrit, ce qu'on me dit, naam, que beaucoup, beaucoup de frères naam, n'ont pas le sens de la responsabilité. Naam, ils se marient seulement pour ses désirs et ses passions. Ça ne lui dit rien que ses enfants apprennent la salat ou la délaissent. Et certains, c'est très désolé de le dire, quand ils reviennent à la maison le soir, c'est quoi ? C'est la télévision. Et si au moins, c'était quelque chose de permis dans la télévision. Si au moins c'était, je ne sais pas, un documentaire où là on montre les forêts ou là les animaux. Mais pour voir des choses obscènes, des choses indécentes. Et plusieurs sœurs me disent, j'ai surpris mon mari en train de voir ces choses. Plusieurs fois, subhanallah al-azim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse nos cœurs. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Le prochain titre, inshallah ta'ala, c'est l'agrément d'Allah et sa principale aspiration. Ensuite, 23, elle agit selon le principe de l'adoration du Allah. Naam. 24e, ce sera très intéressant, elle s'évertue à apporter son soutien à l'islam. Naam. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مسلم ملكو أنصحكم إن شاء الله تعالى في 5 minutes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.